On va passer au Brésil. Avec Tara Hill.
Bonjour. Donc je m'appelle Tara Hill. Je suis architecte. Diplômée de l'année dernière, du coup de l'ENSA de Lyon. Et donc j'ai été invitée à participer à cette journée, notamment parce que je suis associée à une association qui a mis en place donc, ce fonds communautaire de gestion locative et qui est une expérience, une pratique qui s'est mise en place très récemment. Donc, on va dire le statut de l'association a été créé en 2016, fin 2016. Et moi, j'y étais du coup pour un séjour. J'ai déjà été au Brésil plusieurs fois, mais j'y étais l'année dernière notamment et j'ai participé à l'association. Et donc cette association, je l'ai pas écrit nulle part, mais c'est en portugais, c'est l'association La Propriedade Comunitária, donc association pour la propriété communautaire. Et celle-ci a créé donc le fonds FICA. Du coup, en portugais aussi, c'est Fundo Imobiliário para Luca. Je précise juste parce que je trouve ça important de donner les vraies versions. Et donc en parallèle, en fait, j'ai récemment aussi obtenu une bourse doctorale pour du ministère de la Culture. J'ai pas encore commencé, c'est pour l'année prochaine. Et je reviendrai un peu plus sur le sujet parce que c'est en lien. Et je tenais en fait à présenter le FICA parce que c'est déjà c'est la première fois que je pense que moi je présente cette expérience et aussi qu'elle est présentée en dehors du Brésil. Et je trouve ça important, même si vous allez voir que c'est une expérience assez concrète et simple, mais elle a pour moi elle a beaucoup d'importance et de valeur dans le contexte actuel. Et voilà, et pour recadrer aussi, je vais faire ma thèse en co-tutelle avec du coup l'ENSAL, le laboratoire du LOR, et avec aussi en directrice de thèse liée à Coudroit de Lille et en co-tutelle Sandra Fiori. Et après du coup la co-tutelle, co-encadrante Sandra Fiori et un co-tutelle du coup avec Lali Abi qui est un laboratoire à la FAUSPI, du coup une université au Brésil, à São Paulo. Voilà. Et donc aussi pour reciter, j'ai été invitée en fait à m'intéresser à cette association parce qu'il y a un professeur de la FAU aussi qui je vous avais parlé justement de tous les questionnements autour de plutôt des modèles de copropriété. Et en fait, cette question-là, elle est très peu présente au Brésil, sur l'habitat. Et donc, il m'avait invité, c'est Renato Simbalista. Et lui, il est président d'un institut, l'Institut Police à Sao Paulo, qui lutte beaucoup, qui vient beaucoup en appui aux mouvements sociaux sur la question du droit à la vie. Donc voilà, pour resituer un peu le contexte. Je vous présente d'abord un peu les enjeux qui sont très spécifiques en fait, parce que la métropole de Sao Paulo, il y a près d'un million d'habitants dans la région métropolitaine, mais aussi le centre de la métropole, il a un statut assez particulier, c'est qu'il a été complètement déserté au XXe. Et on va dire que les populations, l'élite, allait s'installer en périphérie. Il y a une très forte précarité parce qu'il y a eu peu d'entretien de l'immobilier. Et vous pouvez voir que c'est quand même globalement des immeubles assez conséquents. Et voilà. Et l'un des principales... juste pour donner un chiffre, il y a à peu près 1 200 000 personnes qui sont recensées en situation de précarité, qui habitent le centre. Parce que justement, en fait, je vais en parler un peu après, mais il y a énormément de contradictions sur... je vais en parler là. Il y a énormément de contradictions, c'est-à-dire que il y a en fait 25% de l'immobilier à Sao Paulo qui est détenu par 1%. Du coup, à côté de ça, il y a à peu près 290 000 logements, donc vacants dans le centre de cette métropole. Et donc à côté de ça, la précarité en fait, qui est très forte, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de gens, d'habitants qui se logent dans le marché informel, parce qu'il y a très peu de mise en location en fait de cet immobilier et qui est laissé pour vacant. Et en fait, c'est de la spéculation. Aussi la métropole de Sao Paulo, du coup le centre, il concentre près de 68% de l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut comptabiliser à peu près 3 500 personnes qui se déplacent quotidiennement de la périphérie vers le centre. C'est à peu près la taille de Montevideo, donc juste pour donner une échelle. Et aussi il passe à peu près 173 minutes du coup, dans ses transports. Donc ça a un impact énorme et en fait ce que les personnes qui cherchent à se loger dans le centre, l'enjeu principal, c'est la localisation, c'est-à-dire qu'il, en fait, le centre est quand même très bien équipé, puisque ça a été un centre qui était très prospère avant. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'infrastructures. Au-delà de l'emploi, il y a de l'infrastructure et aussi beaucoup d'équipements et de services publics. Donc il y a un peu cet enjeu contradictoire. Et aussi, on peut noter que depuis près de 10 ans, il y a une inflation énorme du prix de l'immobilier. Aucun impact. Donc en fait la question qui se pose avant que je présente le FICA, c'est donc comment est-ce que les personnes se logent, ces personnes qui vivent en situation de précarité, comment elles se logent dans le centre métropole, parce qu'elles y cherchent, elles ont un intérêt en fait à passer 3 heures dans les transports et à pouvoir être proches de l'emploi et notamment aussi avoir des équipements comme des écoles ou voilà de base. Et donc, une des premières alternatives qui existait pendant le XXe, c'était les cortissos. Là, c'est de la location, du coup, de particulier à particulier. Et en fait, le prix au mètre carré est très, très élevé. On peut voir que 900 réalistes, pardon, pour donner une estimée, c'est le salaire minimum. On peut diviser par 4 à peu près pour avoir la valeur en euros. Et mais ça, c'est très conséquent sur du coup, ces populations-là qui vivent en situation de précarité. Et depuis quelques années, en fait, il y a un recensement qui n'avait jamais été fait donc par le centre Gaspar Garcia, donc dans la région centrale de Sao Paulo. Et aussi pour en fait, mettre en évidence le fait que c'est des situations à risque. Et du coup, avec très peu d'équipements sanitaires, souvent insalubres, et il n'y a pas de régulation de l'État, donc aucune protection en fait, de ces personnes-là. Elles sont souvent expulsées assez facilement. Voilà, il y a aussi beaucoup de liens avec voilà, tout ce qui est trafic. Et donc, en réponse à ces expulsions, qui étaient souvent assez aléatoires, pendant le XXe aussi, il y a eu, et aussi face au manque de politique publique du logement efficace, il y a eu aussi, donc, je reviens sur les occupations, qui sont donc, oui, une occupation illégale d'immeubles dans le centre de Sao Paulo. C'est vraiment d'immeubles, c'est pas de logement, parce que souvent, c'est des, ils appellent ça « Dia di Festa », du coup, le jour de fête, et où, en fait, c'est des mouvements organisés qui vont occuper, voilà, comme un squat, en fait, qui vont occuper, du coup, en masse. Et après, donc, il y a... En fait, c'est aussi... c'est toujours délicat de parler de ces occupations, parce qu'elles ont un statut qui est illégal. En même temps, à mettre en avant une évidence, c'est qu'il y a énormément de logements vacants, et d'immeubles vacants. Et donc aussi, elles ont un vrai poids, parce qu'elles réhabilitent, en fait, même si c'est des interventions très ponctuelles, elles ont un vrai intérêt à maintenir ces immeubles. Et, mais donc c'est aussi à risque, parce que souvent, c'est du coup, pour leur propre compte et sans appui technique, du coup, qu'elles font ces améliorations. Et donc la première occupation date de 1998, donc c'est assez récent, et donc on en comptabilise à peu près 53 actuellement, sachant qu'il y en a qui se ferment, qui se réouvrent très régulièrement. Et juste pour mettre en avant le fait que la plupart sont donc de propriétés privées, mais il y a quand même un certain nombre qui sont des propriétés publiques, qui n'étaient pas initialement destinées au logement, qui étaient plutôt du bureau, mais qui sont aussi tout à fait vivables, enfin voilà. Et moi, j'en ai visité un nombre assez conséquent, et c'est des lieux, enfin, en tout cas, qui sont d'autres conditions que les cortissos. Les cortissos, il y a vraiment une proximité qui est très dure, et alors que déjà dans les occupations, il y a une certaine vivabilité, si on dit. Et voilà. Et donc, je voulais juste mettre cette image qui, du coup, l'année dernière, cette année, en mai, il y a eu donc un événement qui a un peu marqué Sao Paulo. Du coup, c'est vraiment le centre-centre. C'est-à-dire que vous avez. Là, il y a peut-être des plus grosses entreprises qui travaillent à côté. Donc, c'était un bâtiment public qui a été occupé depuis quasiment 15 ans, je crois. Et donc, qui a eu un incendie, il y avait près de 150 familles qui habitaient cet immeuble. Et en fait, c'est aussi pour mettre en avant le fait que c'est pas un événement qui est isolé, mais bien quelque chose qui est structurel du coup, pour la métropole de Sao Paulo. Et du fait qu'il n'y a pas de gestion de la municipalité ou même un appui, en fait. Et donc, aussi, je voulais mettre en parallèle le fait qu'il y a eu quand même depuis quelques années, en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de la législation au Brésil. Et il y a eu la création de ce qu'on appelle la fonction sociale de la propriété. Et en fait, justement, elle veut mettre en avant le fait que la propriété, il faut qu'elle ait un bénéfice pour la société, pour un intérêt général, et pas juste un intérêt individuel. Et donc, de fait, il faut que ces logements soient, ces immeubles soient entretenus et mis en location, et du coup à un prix abordable. Donc maintenant, pour entrer plus sur le contexte c'est le quartier de Luz, et je voulais juste mettre en avant que donc, c'est les derniers projets qui ont été faits du coup, au 21e, du coup, des grands projets de rénovation urbaine. Et ces projets, c'est très clairement de la spéculation foncière, surtout avec la gestion actuelle du gouvernement, enfin de la métropole. On va dire que ces projets, du fait qu'il y ait une insalubrité énorme, il y a constamment eu des projets dans cette région pour rénover et donc expulser et créer, en fait, faire une table rase. Et à la fois, c'est une des régions les plus denses, donc avec tous ces différents types d'alternatives. Et je voulais aussi mettre en tension une autre initiative municipale, au-delà des grands projets qui en fait aboutissent très rarement, même s'il y a une pression qui est quand même présente, mais donc c'est l'IPTU Progressive qui fait en 2017. Et c'est simplement une taxation pour l'immobilier qui est sous-utilisé ou non utilisé. Et donc, ça a un vrai impact, parce que ça a quand même mobilisé du coup, tous les propriétaires, qui sont souvent des grands propriétaires, en fait, ça rend visible en fait, un phénomène qui était souvent pas très explicite et pas très clair. Voilà, et du coup, qui renvoie à la fonction sociale de la propriété. Et le FICA, c'est aussi la première fois que j'ai essayé de, pas vraiment théoriser, mais en tout cas d'apporter un peu de recul, parce que c'est un programme donc le FICA, il y a deux choses qui sont essentielles à comprendre, c'est que c'est à la fois communautaire et c'est sur l'idée de la location sociale. Et je voulais juste mettre en perspective, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas de location sociale comme nous on connaît. C'est-à-dire que dans tout le Brésil, il y a seulement 903 unités qui sont présentes à Sao Paulo, et en plus mises en place depuis 2002, et c'est assez catastrophique en fait la gestion, et du coup pour un coût aussi assez dérisoire, et en même temps ça a vraiment un manque de capacité de gestion de la municipalité. Le FICA, pour revenir sur la question de la communautaire, donc je voulais juste faire référence aux telas, à telas quilombolas, et donc en fait qui sont des qui font référence à la question de l'autogestion. Donc l'autogestion, c'est la gestion locale, la gestion par une communauté locale. Du coup, dans ce cas-là, c'était des terres rurales, et donc c'était comme les marrons. Les esclaves qui fuyaient et qui allaient créer des communautés autonomes, et souvent assez isolées, et qui exploitaient du coup de façon commune les ressources et pour donc un intérêt commun. Et donc aussi il y avait, même si ça a été très tardivement reconnu, mais il y a eu une forme de légalisation de ces terres, comme les terres indigènes, même si c'est toujours très difficile au Brésil. Et donc un peu la finalité, on va dire, la proposition de FICA, c'est de s'insérer donc dans un programme de location sociale qui a été initié récemment dans le plan directeur de Sao Paulo, qui est du coup par autogestion et qui implique la participation de la société civile dans le programme, dans la création du programme de location. Et donc, c'est un modèle en fait, qui a été, on va dire, le modèle communautaire a été assez peu exploité dans un milieu urbain, parce que c'est assez contraignant, mais aussi parce qu'il n'y avait pas cet enjeu très fort de communauté locale. Et le FICA, il se propose d'initier une réflexion sur une gestion communautaire de biens immobiliers dans un contexte urbain. Et la problématique face à ça, c'est de se construire des alternatives à la propriété individuelle, du coup par la participation de la société civile à la définition de programmes publics de location, et donc spécifiquement en centre métropole, je précise, puisque c'est très particulier, et du coup face à une spéculation foncière qui est assez croissante. Et pour entrer plus en détail sur le FICA, déjà il est né d'une initiative d'abord culturelle. En fait, souvent toutes les occupations, elles sont aussi elles sont rendues visibles par une activité artistique assez forte. Et c'est les premiers, même on va dire, les artistes à avoir investi le centre de Sao Paulo, déjà parce qu'il y avait de l'espace, et du coup aussi un jeu possible pour réinvestir des lieux inhabités. Et donc aussi, il y a toute une valorisation de ces immeubles. Et donc le projet Lanchonachi, c'est un groupe d'artistes, mais assez diversifié, même international, en fait, qui ont souhaité réinvestir du coup un sorte de petit restaurant qui est aussi une plateforme culturelle, du coup, dans un immeuble qui était très populaire. Et en fait, le FICA, il est né à peu près d'une réflexion commune. L'association, l'association de la Popularity Communitale, elle est une association à but non lucratif, du coup composée d'associés et de donateurs. Et elle promouvoit du coup la propriété pour l'intérêt commun. Et elle s'inscrit dans les politiques publiques, ce à quoi j'ai fait référence au-dessus, dans le programme de location sociale par autogestion, qui invite la société civile à aussi investir ces questions. Et donc le FICA, c'est la première et c'est l'unique pour l'instant initiative de la société civile pour répondre du coup à ces enjeux de la propriété communautaire et pour proposer une alternative à la propriété individuelle. Donc aussi pour donner quelques grandes lignes, je vais surtout parler de la ligne d'action numéro 1, qui est, je pense, la plus visible pour l'instant, parce que c'est vraiment très récent. Et donc on a trois enjeux par rapport à l'acquisition. L'intérêt, en fait, c'est d'acquérir des biens immobiliers dans le centre de Sao Paulo, notamment par une captation de fonds, mais aussi la possibilité de dons ou d'immeubles ou de logements en concession. Ensuite, il y a une réhabilitation qui est faite et une mise en location à une valeur non spéculative sur le marché. Et donc c'est à peu près le centre de cette initiative. Et l'intérêt, en fait, c'est aussi de proposer un modèle qui est plus basé sur un propriétaire social, comme nous, on aurait un bailleur social dans le modèle français, et proposer à la fois, pas forcément une propriété communautaire, mais en tout cas une gestion communautaire, puisque les biens appartiendraient donc à l'association, mais qui seraient gérés de façon communautaire. La première chose qui a été mise en place, c'est que le fonds, justement, de captation, qui a démarré, qui a été vraiment ouvert en 2017, début 2017. Aujourd'hui, on comptabilise un nombre quand même assez important de donateurs, réguliers ou ponctuels. Mais c'est arrivé qu'il y ait des gens qui donnent une somme très considérable d'un coup. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas d'intérêt direct dans le projet, mais plutôt... Enfin, j'ai pas parlé de qui compose le FICA, mais c'est en fait des gens qui sont tous intéressés par ces questions-là, mais il y a des avocats, il y a des architectes, notamment des architectes et des urbanistes, mais c'est quand même très diversifié, et justement c'est toute la richesse de cette association. Pour l'instant, on est 40 associés, mais on va dire qu'il y a un corps plus directif qui est de 10-15. Et donc on a des donateurs réguliers, des donateurs ponctuels et des immobiliers en concession. enfin, la possibilité de, d'immobilier en concession. Et donc, pour quelques chiffres, voilà, les dons réguliers ont doublé depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, le fonds est à peu près à 25 000 euros. Et, sachant qu'on a notamment pris... Voilà, c'est les comptes de novembre, d'octobre. Il y a notamment un gros investissement dans la réhabilitation du coup, de notre premier appartement. Donc on a fait l'acquisition du premier appartement qui a été du coup acquis en concession, c'est-à-dire qu'il y a des donateurs qui nous ont mis en concession le logement pour 8 ans pour que ce soit pilote. Et je reviens sur le plan initial, là où j'explique qu'il y avait énormément de pression par rapport au grand projet. Et donc là, on peut voir où se situe le logement. Et sur la place Julio Mesquite, qui est très populaire, c'est un quartier très populaire, enfin, tout le quartier de toute façon l'est. Et cet appartement qu'on a du coup a été vide pendant 10 ans, il était inhabité. Et souvent c'est soit qu'il n'y avait pas eu de transfert de propriété ou qu'il n'y avait pas en fait de fonds, enfin le propriétaire n'avait pas les fonds pour entretenir l'appartement. Et donc il n'était pas remis en location. Et donc ce premier appartement, il fait à peu près 45 mètres carrés. Il fait 45 mètres carrés. Et donc on a à peu près investi 10 000 euros pour le réhabiliter, sachant qu'on avait du coup tout ce qui était technique, c'était géré en interne, enfin, dans l'association par les architectes. Voilà. Et donc par rapport à ce premier logement, en fait, il y a eu deux questions principales qui se sont posées, parce que ça c'était voilà, la réforme, elle est en train de se finir. Pendant la réhabilitation. Et donc il y a un peu deux questions parallèles qu'on se pose en fait. Du coup à qui se destine ce logement, parce que en fait, une des premières réalités de l'association, c'est qu'on peut pas être un fonds à perte, parce qu'en fait on n'a pas de fonds. Et donc l'idée, c'est quand même que en fait on puisse pas non plus toucher les familles les plus pauvres. Et agir comme une politique publique qui, elle, souvent s'adresse à des familles qui... Nous, par rapport au loyer, on a décidé que le loyer serait à 30% maximum du salaire de ces personnes. Et alors que dans le programme de location sociale de Sao Paulo, c'est à 10%. Mais sachant que la moyenne à Sao Paulo dans le centre, elle est à 70%. C'est-à-dire que les gens investissent à peu près 70% de leur revenu dans le logement. Et donc, c'était de trouver un intermédiaire. Et donc, on a décidé de cibler une famille qui touchait un revenu de salaire minimum. Et on n'a pas encore défini, on est en cours de recherche. Et on a aussi défini qu'il faudrait qu'il y ait des enfants, et notamment de préférence que ce soit une femme. Voilà, aussi pour. Mais ça, c'est encore assez subjectif et on n'a pas encore vraiment tout élaboré. Et donc, pour revenir sur aussi l'un des aspects les plus importants, et en fait, pour moi qui questionne, enfin, qu'est-ce que c'est la participation, c'est vrai que je me suis beaucoup axée sur plutôt une question de gestion communautaire d'un bien, mais en fait aussi celle-ci, elle implique donc plutôt une participation financière. Et l'idée, c'est que du coup, chaque locataire, si dans 10 ans, par exemple, on a, je sais pas, 10-20 logements dans le centre, c'est que chaque locataire en fait aussi contribue, même si c'est assez modeste, mais au fond et au-delà des donateurs réguliers, et aussi que donc il y ait une des contraintes aussi assez essentielles, c'était qu'on savait qu'on pouvait pas faire l'impasse sur la manutention du bien, et donc il fallait qu'il y ait aussi une partie du loyer qui soit pour ça, et aussi une contribution au fonctionnement de l'association en telle qu'elle. Et donc il y avait ces coûts anticipés et aussi l'assurance. Et après, les coûts variables qui sont en dessous, le coût de la copropriété, qui sont assez élevés quand même au Brésil, puisqu'il y a beaucoup de services gérés en interne, et l'IPTU, qui est la taxation foncière, qui est prélevée mensuellement. Et l'idée, c'est pas d'avoir en fait un loyer fixe, mais plutôt d'avoir du coup une base fixe qui est celle pour entretenir, pour rendre durable en fait la démarche, et en même temps du coup, avoir selon les appartements, les localisations, les mètres carrés, avoir ces variations. Mais toujours en se fixant ce plafond de 30%, un maximum de 30% du loyer. Et donc, dans le cadre du premier appartement, on est tombé sur 584 réals. Et donc, ça rentre dans les critères. Et c'est à peu près un tiers du loyer moyen dans l'immeuble. Donc, en fait, juste pour donner. Et j'ai bientôt terminé. Donc, avec ces différentes étapes du projet, il y a plusieurs choses que je voulais mettre en avant. Donc, ce fonds communautaire de gestion locative, il répond donc à une forte précarité et un déficit de logement assez conséquent dans le centre métropole de la Sao Paulo. Aussi, il pose vraiment une valeur éthique de faire face à la gentrification et du coup éviter l'expulsion à des populations les plus précaires et aussi garantir du coup à ces familles la possibilité de bénéficier des infrastructures. Simplement par l'acquisition et la réhabilitation et la mise en location de biens immobiliers du coup à une valeur non spéculative. Et après, pour ouvrir un peu sur la question plus globale de l'autogestion communautaire, déjà, c'est une réponse partielle. On n'a vraiment pas l'intention de se substituer à la politique publique. C'est impossible, surtout avec toutes les contraintes au Brésil. Mais en tout cas, c'est une des premières initiatives qui questionne les possibilités et la viabilité du logement social, du logement locatif, pardon. Et aussi dans un contexte très particulier qui est le centre de Sao Paulo et où il y a peu de logements construits en fait aussi. Il y a un parc de logements énorme mais qui est vacant. Et donc aussi ça questionne est-ce que les entités civiles elles peuvent être des interlocutrices des politiques publiques du logement. Nous on est encore en train de construire cette relation parce que même on cherche aussi à être un interlocuteur fiable vis-à-vis à la fois de la population et en même temps des politiques publiques, et c'est vraiment quelque chose qui se construit pas à pas. Enfin voilà, on est en train. Et je voulais ouvrir aussi du coup sur ça a été cité plus tôt, mais les mutilores autogélides, et donc c'est sur quoi va porter mon sujet de recherche en thèse. Et donc qui sont donc un dispositif de production de logement qui fait appel à l'autogestion par la copropriété, par la coopérative, pardon. Et l'intérêt aussi c'est de questionner ce modèle qui est quand même qui a à peu près 30 ans d'histoire au Brésil et en Uruguay depuis les années 70, et qui est un modèle qui a été inscrit dans les politiques publiques du logement et qui en fait s'avère efficace, enfin pas efficace parce qu'il n'a pas été exploité à grande échelle, mais en tout cas qui a des vraies conséquences positives sur la production de la ville. Et donc c'est pour moi à la fois c'est questionner donc la praxis de l'architecte sachant que en fait on n'a plus les mêmes interlocuteurs, on n'est plus juste acteur d'un dessin, mais on vient vraiment porter un projet qui est autogéré donc par des communautés. Et aussi, plus précisément, je vais questionner la question de la conception et pas seulement de la production, mais du coup, quel rôle joue la conception dans aussi proposer un logement abordable mais de qualité, et qui sont des enjeux souvent assez complexes. Et donc, aussi faire comme aujourd'hui, valoriser une pratique du Sud, même si le Brésil c'est un peu plus, mais. Et réactualiser des connaissances, il y a aussi assez peu de documentation là-dessus. Et je voulais juste faire un parallèle, puisqu'avec les discussions qu'il y avait eues précédemment, actuellement je suis en train de faire un service civique au Beret, qui est une ONG de développement solidaire. Et eux, ils ont porté un projet en Haïti suite au séisme. Et donc ça re-questionne toutes les questions de la construction assistée, et dans un contexte très particulier de post-crise. Mais en tout cas, c'est les familles pour qui on propose du logement, en fait elles sont en maîtrise d'ouvrage, enfin nous on fait de l'appui à la maîtrise d'ouvrage, ça veut dire que si ça questionne, c'est même pas de la participation, c'est à dire qu'on essaye de donner des outils pour que les familles elles soient autonomes, et merci.
Bon, donc on peut passer s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions techniques?
Une question technique de substitution, une question de précision de votre statut, de, du coup, des postures dans lesquelles vous êtes. Parce que du coup, vous avez fait état de plusieurs identités,
oui.
Par les temps, par nos temps connectés, c'est normal, mais je veux bien vous préciser, parce que vous êtes introduite dans les différents métiers. En début de thèse, j'ai bien compris. Je m'attends à faire, bon, voilà, bon, après, voilà. Mais après, vous nous avez parlé d'une opération en disant vous, je, voilà, donc,
oui.
On vous a senti très dedans. Et puis là, on découvre une troisième autour de cette expérience du Grec. Donc, si, moi, pour ça nous permet de, oui. Je pense, pour l'auditeur de mieux saisir la.
Mais en fait, c'est, vous parlez. Oui, c'est des, je parle en tant qu'associé de la situation qui porte ce fonds communautaire. Et enfin, j'ai toujours considéré que c'est quelque chose d'assez indépendant. Enfin, moi, je l'ai fait vraiment par conviction et parce que c'est une expérience qui est très chouette. Et, mais donc, à côté de ça, j'ai aussi besoin de travailler. Donc, non, mais le service civique. Je suis en fin de service civique, mais j'ai démarché du coup le Grec parce que j'étais intéressée par leur posture et aussi parce que c'est aussi une richesse énorme ce qu'ils ont fait en Haïti et sur ces questions voilà, d'appui aux communautés. Et donc j'ai eu la chance de. Enfin, j'ai eu mon financement en octobre, donc c'est aussi un peu récent pour moi. Et j'atterris du coup en thèse, sachant que quand on m'a sollicité, j'étais pas encore en thèse. Donc il y a un peu ce double jeu. Voilà. Je sais pas si c'était très clair.
En fait, ça veut dire que vous êtes doctorant financé et en service civique, c'est ça ?
Non, j'ai pas mis mon service civique avant. En fait, j'ai eu des financements pour l'année 2018.
Merci. C'est moi une précision parce que vous avez dit que vous avez choisi les critères d'assignation d'attribution des joints en famille, mais vous avez déjà indiqué un critère, vous avez indiqué d'assigner des joints en famille avec un revenu de deux salaires. Donc je voudrais un peu savoir en plus sur ça.
Oui.
Merci beaucoup.
Alors c'est encore en débat, mais c'est de savoir en fait est-ce qu'on proposait à une famille qui vivait en périphérie et donc qui subissait le transport quotidiennement de venir s'installer en centre métropole, ou est-ce qu'on ciblait plutôt une famille qui était voilà, qui logeait dans des conditions de précarité. Et donc on n'a pas forcément statué de cette situation, enfin, c'est pas dans notre intérêt. On a plutôt essayé de définir donc un modèle familial, mais en tout cas d'impacter par exemple les enfants en priorité et donc des enfants de bas âge. Et aussi il y a une question de surface, c'est 45 mètres carrés. Donc là il y a une petite image de comment plus ou moins on pourrait investir ce lieu. Il y a eu énormément de réflexions communes, mais voilà, ça reste un espace assez restreint, même s'il est très bien localisé. Donc on s'est dit au maximum 3 personnes, donc de la même famille, c'est difficile une colocation. Et donc les deux salaires minimum, c'était justement, en fait, nous on pourrait pas proposer par rapport à ça. Nous, à nos restrictions et à nos contraintes, en fait, on pourrait pas proposer moins de deux salaires. C'est un peu un seuil qu'on a essayé d'établir. Et on sait que c'est quand même un rôle plutôt étatique de subvenir à ses besoins. Donc, voilà. Mais c'est pas plus défini que ça. C'est assez ouvert.
Je ne connais pas le Brésil, mais du coup, votre projet, c'est le seul pour tout Sao Paulo, en termes de gestion locative un peu sociale et solidaire, et le reste, c'est la jungle. Je n'ai pas tout à fait compris votre présentation, en fait.
C'est du particulier, c'est des locataires. C'est soit des propriétaires, ou soit des propriétaires qui louent, mais c'est une gestion privative. Après, il y a aussi du logement social. Il y a le problème de la Casa Minavida, mais qui lui, quand même, est beaucoup plus. C'est dit par rapport. C'est plus de la périphérisation, de la construction en périphérie. Donc, c'est du logement de masse social, mais en périphérie, et c'est de l'accession à la propriété.
Alors, moi, j'avais pas vraiment une... Si, une question. C'était par rapport à ce que Louis tout à l'heure, s'y protège les habitants, c'est la non-transparence. Alors il y a peut-être un parallèle à faire avec le Brésil, quand tu as parlé des quilombes, si je ne me trompe pas, en 1988, qui est la date de la commémoration officielle de l'abolition de l'esclavage, il y a une loi qui est passée pour reconnaître, entamer une titrisation des anciens esclaves marrons qui s'étaient les habitants des anciens quilombes qui en fait vivaient cachés. C'était plus ou moins bon, il y a une histoire de répression des quilombes, etc. Les plus grands, mais les plus petits, ils ont réussi à survivre plus ou moins sans titre. Et donc, si tu pouvais, est-ce que tu as des éléments là-dessus
sur la constitution?
Non, sur l'évolution de cette titrisation. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est, je crois que tu as 3000 quilombes, et sur 3000, il y a peut-être 10% depuis 1988, même pas, qui ont eu une titrisation, et le reste n'a pas. A vécu dans, comment dire, a continué dans un peu dans le même système, mais peut-être, il me semble que avec cette mise en évidence de quelque chose qui était caché, des nouveaux problèmes ont commencé à surgir, comme j'ai fait ça en survolant, mais j'ai vu par exemple sur un des quilombes, il y avait la marine qui réclamait des terres. Il y a eu un début de mobilisation pour justement éviter que la marine nationale ne s'approprie ces terres.
Ouais, juste ce que je sais, c'est
que
souvent les descendants de ces esclaves qui luttent aujourd'hui. C'est difficile de prouver, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas tous ces papiers administratifs. C'était des terres très isolées. Mais après, oui, c'est depuis la Constitution qu'elles ont été reconnues, mais c'est comme les terres indigènes. Il y a encore énormément de... C'est un processus assez long de définition du territoire. Enfin,